Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 25 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres. Dernière minute, 5 morts dans un attentat à la voiture piégée à Mogadiscio, en Somalie.
En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed se rend au front à la tête de la contre-offensive contre les rebelles. Washington avertit qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit.
Au Niger, 13 djihadistes ont été tués lors d'une opération de ratissage aux alentours de Difa, annonce la force multinationale mixte.
Au Sénégal, le président Macky Sall veut rétablir le poste de Premier ministre, supprimé après sa réélection en 2019.
Sénégal toujours, plus de 300 plaintes ont été déposées contre l'organisatrice d'un concours de Miss, accusée d'apologie du viol.
Plaidoyer du médecin congolais Denis Mukwege contre l'impunité. Journée internationale ce 25 novembre pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
En Géorgie, dans le sud des États-Unis, 3 Américains blancs ont été reconnus coupables du meurtre du jogger africain-américain Ahmad Arbery.
Ne manquez pas notre passeport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal. Donc, 5 morts et aussi 15 blessés dans une explosion à la voiture piégée à Mogadiscio, près d'une école de la capitale, a dit un responsable de la sécurité. Parmi les blessés, il y a des élèves, selon lui.
En Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed est au front où il dirige la contre-offensive des forces gouvernementales contre les rebelles venus de la région du Tigré et qui menace de prendre la capitale Addis Abeba. Les détails avec Mohamedou Oumfa.
Monsieur Abiy Ahmed mène maintenant la contre-offensive et dirige le champ de bataille depuis hier, a rapporté le média d'État Fana Broadcasting Corporate, qui ajoute qu'à Addis Abeba, le vice-premier ministre Demeke Mekonnen gère désormais les affaires courantes. Il n'était pas possible de savoir exactement où se trouvait monsieur Abiy Ahmed et Fana n'a pas diffusé d'image de lui sur le terrain. Les autorités se gardent de commentaires concernant les détails de cette mission. Mercredi, des centaines de nouvelles recrues de l'armée ont participé à une cérémonie à Addis Abeba. Des camions à destination du Nord étaient chargés de moutons et de bœufs, les recrues entamant des chants patriotiques. Alors que les rebelles affirment être maintenant à environ 200 km de la capitale, plusieurs pays et organisations ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Éthiopie, les efforts diplomatiques de la communauté internationale n'ayant pour le moment pas permis d'obtenir un cessez-le-feu. Mais le gouvernement continue d'affirmer que la progression du TPLF est exagérée, rejetant une couverture médiatique sensationnaliste et des recommandations sécuritaires d'ambassades jugées alarmistes.
Alors que le Premier ministre Abiy Ahmed se rend au front, les États-Unis ont affirmé hier qu'il n'y avait pas de solution militaire au conflit en Éthiopie et appelé toutes les parties à s'abstenir de toute rhétorique incendiaire et belliqueuse, à faire preuve de retenue, à respecter les droits humains, permettre l'accès humanitaire et protéger les civils. Notre objectif est de soutenir la diplomatie comme première, dernière et unique option, a souligné un porte-parole du Département d'État américain.
Au Niger, la force multinationale mixte affirme avoir tué 13 djihadistes de Boko Haram lors d'une opération de ratissage aux alentours de Difa, la grande ville du sud-est proche du Nigeria. Le point avec Abdulrahman Dia.
Selon un communiqué de cette force composée du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger, l'opération a été menée du 21 au 23 novembre aux alentours de la ville de Difa afin de neutraliser toute présence terroriste dans la zone et lutter contre les infiltrations de Boko Haram. La zone visée par cette opération abrite un réseau complexe de financement des activités terroristes mises en place par Boko Haram, ajoute la force multinationale mixte. Des armes, dont des fusils AK-47, des pistolets automatiques, des grenades, des chargeurs, des munitions, ainsi que des produits pharmaceutiques ont également été saisis. Boko Haram, né au Nigeria voisin, avait mené sa toute première attaque au Niger le 6 février 2015 contre Bosso sur les rives du lac Tchad. Selon l'ONU, la région de Diffa abrite 300 000 réfugiés nigérians et des déplacés qui ont fui les exactions des djihadistes.
Au Sénégal, le président Macky Sall se prépare à rétablir le poste de Premier ministre qu'il avait fait supprimer à la surprise générale et malgré les protestations après son élection, un deuxième mandat en 2019. Le Conseil des ministres a indiqué dans un communiqué avoir adopté un projet de révision de la Constitution visant à rétablir le poste et qui sera soumis, suivant une procédure d'urgence, à partir du 30 novembre à l'Assemblée nationale.
Sénégal toujours, plus de 300 femmes ont déposé des plaintes hier à Dakar contre la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal, qu'elles accusent de faire l'apologie du viol. Nani Talani.
Ces femmes ont déposé plus de 300 plaintes au tribunal pour saisir le procureur suite aux interviews parues dans la presse locale la semaine dernière où Miss Sénégal 2020, Ndeye Fatima John, 20 ans, dit avoir été droguée et violée dans un hôtel au cours d'une soirée à laquelle elle avait invité le comité d'organisation. Elle a affirmé être tombée enceinte et écartée des activités du comité Miss Sénégal. Aujourd'hui, elle est mère d'un bébé de 5 mois dont elle dit ignorer le père, selon la presse. Le lendemain de cette sortie de Ndeye Fatima, la présidente du comité d'organisation de Miss Sénégal, Amina Badiane, a déclaré au cours d'une conférence de presse qu'un viol implique deux personnes. « Si on te viole, c'est que tu l'as cherché. Elle est majeure », a-t-elle déclaré en wolof. Ces paroles ont suscité de vives réactions de condamnation de femmes et d'associations de défense des femmes. Elles estiment que c'est une façon d'inciter les violeurs à continuer et de mettre les filles en danger. En plus de dénoncer l'apologie du viol, les plaignantes réclament le retrait de la licence de l'actuelle organisatrice du concours national de beauté et demandent à l'État de confier son organisation à des personnes plus respectueuses des droits de la femme. En 2020, le Sénégal a promulgué une loi reconnaissant le viol et la pédophilie comme crime. Leurs auteurs sont jugés par la chambre criminelle et risquent jusqu'à la réclusion à perpétuité.
Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a lancé mercredi un appel à la fin de l'impunité face aux violences faites aux femmes à la veille du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les violences faites aux femmes constituent l'une des violations les plus graves des droits humains et sont répandues partout à travers le monde, dans toutes les sociétés et dans toutes les classes sociales, écrit dans un communiqué le docteur Mukwege, gynécologue congolais qui a reçu en 2018 le prix Nobel de la paix pour son action en faveur des femmes victimes de viols utilisées comme armes de guerre.
En Guinée équatoriale, le parti au pouvoir a créé la surprise en ne choisissant pas lors de son congrès à Bata son candidat à la présidentielle de 2023, une première dans ce pays dirigé depuis 42 ans d'une main de fer par son président Théodore Obiangema. Il est en très net retrait de la scène politique depuis quelques mois, au profit de son fils âgé de 53 ans.
Oui, le vice-président Théodore Nguema Obiang, surnommé Théodorin, présenté de longue date comme son dauphin et condamné en France dans le cadre de l'affaire des biens mal acquis, le fait que le fils ne soit pas désigné candidat par le Congrès dit tout simplement que c'est la personne qui est en place qui demeure à assurer à l'AFP un cacique du régime.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, à l'issue d'un procès marqué par la question du racisme, trois Américains blancs ont été reconnus coupables hier du meurtre du jogger africain-américain Ahmad Arbery, qu'ils avaient poursuivi puis abattu en février 2020 dans l'État de Géorgie. Le président Joe Biden a aussitôt salué le verdict tout en reconnaissant que beaucoup de travail restait à faire avant de parvenir à l'égalité raciale.
La mort de 27 migrants mercredi dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche, une tragédie inédite sur cette voie migratoire, a provoqué une onde de choc à Londres et Paris, qui sont convenus de l'urgence d'intensifier la lutte contre ce trafic après des semaines de tensions.
Plusieurs bâtiments ont été incendiés ce jeudi à Honiara, la capitale des îles Salomon. Selon des témoins, des milliers de manifestants ont envahi le quartier chinois de la ville, exigeant la démission du premier ministre. L'Australie va envoyer une force de maintien de la paix aux îles Salomon. La Minute Éco, John Linden.
En RDC, le président Félix Tshisekedi a procédé mercredi à l'ouverture du DRC Africa Business Forum à Kinshasa, en présence de son homologue zambien Hakainde Hichilema. Monsieur Tshisekedi a souligné l'importance pour la RDC de prendre le leadership de la production régionale des batteries électriques pour le marché des véhicules électriques qui représente plus de 8 milliards de dollars. La RDC détient à la fois les deux tiers de la réserve mondiale du cobalt, estimée à près de 25 millions de tonnes, et la plus grande réserve mondiale de lithium à Monono dans la province du Tanganyika, et qui est évaluée à près de 400 millions de tonnes. La valeur des transactions de financement par des voies autres que celles des banques commerciales et qui sont annoncées au profit des entreprises basées en Afrique a dépassé 9 milliards de dollars selon l'agence Ecofin. C'est une nette amélioration par rapport aux 3,4 milliards d'annonces de financement sur la même période en 2020. Ici aux États-Unis, les prix à la consommation ont continué leur escalade en octobre, tirés par les prix de l'énergie, et enregistrent à plus 5% sur un an, leur plus forte hausse depuis 1990, selon le département du commerce.
Merci John. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La CAF est insatisfaite du niveau de préparation de la CAN Cameroun 2021 et menace même de faire jouer le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso ailleurs que sur le site du stade Olembé. Elle l'a fait savoir au comité local d'organisation dans un courriel de Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Le document de 5 pages est accompagné des photos et des sites sur lesquels la CAF émet, citation, de sérieuses inquiétudes concernant l'organisation du tournoi, fin de citation. Le secrétaire général de la CAF qui écrit au comité local d'organisation cite entre autres le retard dans l'état d'avancement des travaux extérieurs du stade d'Olembé dans la banlieue de Yaoundé, la maintenance inconstante des pelouses, cas du stade d'entraînement de Bangou dans la poule de Bafoussam qui selon la CAF est impraticable, l'absence d'informations sur le protocole sanitaire du Cameroun pendant la compétition ou encore des détails pour des facilitations des procédures douanières pour la CAF, ses prestataires et sponsors. Le Cameroun a jusqu'au 30 novembre pour mettre le stade de Limbé à l'état. Au cas contraire, le match d'ouverture aura lieu ailleurs, peut-on lire dans le courriel de la CAF, envoyé le 17 novembre dernier. Cette correspondance est en retard et en décalage par rapport à la réalité concrète sur le terrain, a déclaré sur les antennes de la radio à capitaux publics le ministre des Sports, Narcisse Moëlle-Kombi. Ce dernier a réitéré que le stade de Limbé sera prêt et une délégation du Cameroun a été envoyée au Caire pour rencontrer les autorités de la CAF à marge des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire. Yaoundé, Emmanuel Jeuntap, VOA Afrique.
En Europe, Manchester City a battu le Paris Saint-Germain 2-1 en Angleterre lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, mais les deux équipes sont qualifiées pour les 8e de finale. Qualification également pour le Real Madrid qui a battu le Sheriff 3-0. Tout comme l'Inter Milan, vainqueur du Shakhtar 2-0, 1-0 pour l'AC Milan devant l'Atlético à Madrid. Déjà qualifié, Liverpool a disposé du FC Porto 2-0, dont un but de l'Égyptien Mohamed Salah. Karim Benzema, condamné dans l'affaire dite de la sextape, la star française du Real Madrid a été reconnue coupable de complicité de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Il a écopé d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client fait appel du jugement. Cette décision de justice ne devrait pas écarter Benzema de l'équipe de France, selon le président de la fédération, Noël Le Graët, et le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui dit n'avoir de boussole que les performances sportives des joueurs. Depuis son retour en équipe de France, Benzema compte 9 buts en 13 matchs.
Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Milwaukee et Détroit, 114 et 93. Brooklyn et Boston, 123 et 104. LA Lakers et Indiana 124 et 116, Charlotte et Orlando 106 et 99, Houston et Chicago 118 et 113, Phoenix et Cleveland 120 et 115, Toronto et Memphis 126 et 113. De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, 36 des 53 gendarmes tués lors d'une attaque djihadiste dans le nord du pays ont été inhumés mardi à Ouagadougou devant une foule de parents en colère. Le 14 novembre, plus de 300 djihadistes armés ont attaqué le camp du détachement de gendarmerie d'Inata. Le dernier bilan fait état de 57 morts et 47 rescapés. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kabore a évoqué des problèmes de dysfonctionnement dans l'armée. Yacouba Ouédraogo a joint à Ouagadougou le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara.
L'armée, déjà, n'est pas bien organisée. Elle n'est pas organisée encore en grandes unités, c'est-à-dire il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de division, il n'y a pas de corps d'armée, mais on parle quand même d'armée. Et les généraux de brigade sont nommés, les généraux de division sont nommés. Aucun ne prend un commandement puisqu'il n'y a pas d'unités qui sont créées. Donc ils servent tous soit en état-major ou dans des bureaux ministériels. Une armée comme ça, elle ne peut pas gagner une guerre. C'est pas possible.
Quelles sont les conséquences d'une telle organisation?
C'est qui amène donc à éparpiller les unités par petits bouts, avec des détachements de petits nombres. L'ennemi n'est pas bête. Il sait, parce que dans toutes les écoles militaires, on nous a appris que vous n'attaquez un ennemi que lorsque vous êtes deux à trois fois plus supérieur à lui, en nombre ou en armement. Tant qu'il y aura des éléments éparpillés dans le terrain, ce sont des cibles faciles pour l'ennemi.
On entend souvent parler de problèmes de commandement. Il y a eu plusieurs fois le ministère de la Défense est passé entre les mains de Roch Kabore, qui est le président, et entre d'autres mains aussi. Il y a eu des chefs d'état-major qui ont été remplacés. Récemment, avec l'attaque d'Inata, des commandants de gendarmerie ont été relevés. Est-ce qu'un véritable problème de commandement dans l'armée?
S'il n'y a pas, sur le terrain, il n'y a pas de grandes unités, les généraux ne sont pas responsables d'un commandement précis. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Ouagadougou, envoyer des détachements sur le terrain et puis les commander. C'est impossible. Même si, admettons que les transmissions soient très, très, très efficaces, malgré ça, vous ne pouvez pas commander de manière optimum des hommes que vous envoyez par petits groupes. Je suppose qu'il y a des chefs qui ne sont pas à leur place.
À qui vous faites référence?
D'une manière générale, je vous ai dit que le TED n'était pas respecté. C'était le tableau des effectifs et des dotations. Alors, quand cela n'est pas respecté, on arrive à avoir, par exemple, des officiers subalternes qui sont envoyés pour commander des unités qui ne devraient pas normalement être commandées par ces gens-là. Par exemple, que vous envoyez un capitaine commander un régiment, ça ne peut pas se faire. Vous voyez, à la place d'un colonel, par exemple, vous pouvez nommer à la tête de l'armée tous les officiers supérieurs à tour de rôle, mais rien ne changera à partir du moment où le format militaire lui-même n'est même pas adapté.
Justement, vous parliez du tableau des effectifs et des dotations. Il a été dit que lors de la récente attaque d'Inata, les gendarmes étaient à court de munitions et même de nourriture. Comment expliquer cela?
C'est cela, les gens sont isolés. Je vous dis, ils n'appartiennent à aucune grande unité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logistique. Apparemment, toute la logistique part de Ouagadougou. Donc, il n'y a pas de logistique de grandes unités de proximité.
Quelles leçons retenir de cette attaque d'Inata et de toutes celles qui sont similaires?
Inata révèle sûrement que ce format ne fonctionne pas. Ou bien il n'a pas fonctionné pour le cas d'Inata seulement, ou bien d'une manière générale, il n'y a pas de troupes fraîches qui sont là, prêtes pour remplacer celles qui sont usées, épuisées dans le combat.
Le colonel burkinabé à la retraite, Lona Charles Ouattara, joint à Ouagadougou.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Les États-Unis vont restituer des objets culturels au Mali. La douane américaine avait intercepté au port de Houston en 2009 une cargaison illégale en provenance du Mali contenant plus de 900 objets funéraires, et des reliques datant du néolithique. Les efforts de restitution de ces objets avaient été interrompus à cause de la situation au Mali. Pour mieux comprendre les dangers du trafic illicite de biens culturels, Modibo Dambélé a joint le directeur du Musée national du Mali, Daouda Keïta.
Finalement, nos biens culturels reviennent à la maison. Les biens culturels sont sortis frauduleusement du territoire malien. Et ils ont été interceptés par la douane américaine qui nous remet. C'est comme si on nous remet une partie de notre histoire. C'est comme si on nous remettait une partie de notre patrimoine culturel. C'est comme si on nous remettait une partie de notre identité. C'est l'occasion pour moi de remercier la partie américaine pour le travail colossal abattu et aussi pour leur générosité.
Quel est le nouveau dispositif que vous allez mettre en place pour lutter contre les pillages des objets culturels au Mali?
Déjà, il y a des textes de loi qui existent en la matière et qui réprimandent le trafic illicite des biens culturels et le pillage des sites archéologiques. Mais malheureusement, ces textes ne sont pas suffisamment connus. Donc, je pense qu'il serait important pour nous de procéder à une large diffusion de ces textes, et surtout au niveau des agents de sécurité qui travaillent au niveau de nos frontières. Parce qu'ils sont en fait les derniers remparts. Et à mon avis, ils doivent être très bien outillés et aussi suffisamment informés pour qu'ils sachent que seuls les copies peuvent sortir et que tout ce qui est authentique ne peut pas sortir. Il est important aujourd'hui de mener des campagnes de sensibilisation et d'information au niveau de différentes couches de la communauté locale, la communauté qui vit à côté des sites. Si elles sont mieux informées, si elles sont mieux outillées, à mon avis, elles peuvent nous aider à lutter efficacement contre ce fléau. Ces communautés-là côtoient les antiquaires. Donc, s'ils sont informés, ils peuvent leur dire de ne pas travailler sur ce site.
Ces lots de 900 objets confisqués, il y a un pot polychrome et il y a même des reliques datant depuis les néolithiques. Est-ce que le musée dispose-t-il des moyens appropriés pour la conservation de ces objets?
Déjà, nous avons des objets semblables qui sont entreposés. Donc, ça veut dire que nous avons une expérience en la matière. Mais cela ne nous empêche pas de voir, dans le cadre de la collaboration, les appuis et le soutien pour nous aider à mieux faire. Cette exposition pédagogique va être aussi un moment pour nous de sensibilisation, d'information de la population sur les méfaits du pillage et du trafic illicite des biens culturels. Ces objets polychromes peuvent être le témoignage des contacts et des échanges entre notre pays et les pays voisins, voire les pays méditerranéens.
Daouda Keïta, directeur général du Musée national du Mali.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Les Américains célèbrent ce jeudi la journée d'action de grâce ou Thanksgiving. Ils sont nombreux à prendre la route pour célébrer cette fête traditionnelle avec leur famille. Malheureusement, la route devient de plus en plus meurtrière aux États-Unis, le nombre de morts dans les accidents routiers atteignant son plus haut niveau au premier semestre depuis 2006, selon le département des transports. Un reportage de Karina Bafradzian, le récit est de Jacques Aristide.
La route a tué au moins 20 000 personnes au cours des 6 premiers mois de l'année, d'après la National Highway Traffic Safety Administration du département américain des transports. Il s'agit de la plus forte augmentation jamais enregistrée par rapport à la même période. Le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a exprimé sa consternation.
Nous ne pouvons pas et ne devons pas accepter ces décès comme faisant simplement partie de la vie quotidienne en Amérique. Personne n'y arrivera seul. Il faudra que tous les niveaux du gouvernement, des industries, des activistes, des ingénieurs et des communautés à travers le pays travaillent ensemble jusqu'au jour où les familles n'auront plus à dire au revoir à leurs proches à cause d'un accident de la circulation.
L'excès de vitesse est l'une des raisons du nombre plus élevé des tragédies routières, d'après Adam Snyder de la Governors Highway Safety Association.
De nombreux États signalent des excès de vitesse. Je ne parle pas de 10 ou de 20 000 à l'heure au-dessus de la limite. Je parle de vitesse à trois chiffres, de 120 à 130 000 à l'heure. Donc, nous devons vraiment lutter contre la vitesse. La conduite avec des facultés affaiblies est un autre gros problème qui fait environ 10 000 morts chaque année.
Des experts sont d'avis que la pandémie de Covid-19 est aussi un facteur. Elle a fait que les autoroutes étaient moins fréquentées durant une longue période et de nombreux automobilistes en ont profité pour conduire dangereusement, comme par exemple en utilisant en même temps le téléphone portable. Carl Ninges est de l'université de New Haven.
We are really relying on technology. And so communication was not done face to face, it was done over the
Nous comptons vraiment sur la technologie. La communication ne se faisait pas en face à face, elle se faisait par téléphone avec nos amis et notre famille. Elle se faisait par SMS et une partie de cela s'est transférée à nos véhicules. Lorsque les conducteurs reçoivent un SMS, ils pensent qu'ils doivent répondre immédiatement.
Une autre raison de l'augmentation du nombre d'accidents, c'est qu'il y a moins de policiers sur les routes. D'après Adam Snyder, à la fois la pandémie et les manifestations contre les forces de l'ordre à travers les États-Unis ont conduit à la diminution du nombre d'agents de la circulation. Le simple fait de voir la police, ajoute-t-il, peut contraindre à une conduite plus prudente.
Merci Jacques. Ajoutons que la 95e édition de la parade de Thanksgiving se tient ce jeudi à New York. Cette fête incontournable aux États-Unis vise à rendre grâce à l'année écoulée aux proches et aux amis. Cette fois, la parade, qui existe depuis 1927, sera symbole de résilience face à la pandémie. Après une version minimaliste et édulcorée l'année dernière, elle revient dans toute sa splendeur. Un tel spectacle requiert des mois de préparation. Pour en savoir plus, Dilidico a assisté à la dernière répétition en plein centre de Manhattan.
Cette nuit, les températures avoisinaient 0 degré Celsius. Mais cela ne suffisait point à décourager les artistes venus répéter pour le jour J. Pour cette unique répétition en plein air, les costumes n'étaient pas de sortie. Mais c'était l'occasion pour les danseurs de prendre leur marque et de se familiariser avec les lieux. Laura, une danseuse du ballet Hispanico, se dit très fière de rejoindre la parade de Thanksgiving.
C'est ma première année avec le ballet Hispanico et avec ce groupe en particulier. C'est vraiment incroyable pour moi de faire partie de la parade de Thanksgiving. Enfant, je rêvais d'être à New York. C'est donc formidable d'avoir l'opportunité de danser ici.
L'essentiel du show se déroule devant le grand magasin Macy's en charge du spectacle et la parade défile sur la 34e rue de New York. Cette 95e édition est très importante puisqu'elle marque le retour post-pandémie de la parade à son format grandiose et le début de la saison des fêtes de fin d'année. Pour marquer le coup, la parade puise ses talents aux quatre coins des États-Unis. Parmi les différents numéros figurent des chorégraphies de la troupe de danse Spirit of America qui compte plus d'une centaine d'adolescentes. Écoutons les danseuses de Spirit of America.
Cette expérience est incroyable. J'ai pu faire le déplacement. Avec le Covid, ce n'était pas évident. Du coup, revoir tout le monde, ça fait du bien.
Même maintenant, j'ai du mal à réaliser. Je me dis, oh mon Dieu, nous sommes vraiment là. Voir ce spectacle chaque année à la télévision est une tradition. Et maintenant, en faire partie est tout simplement une expérience incroyable.
Megan O'Connell, une maman californienne, est venue soutenir sa fille, l'une des danseuses de Spirit of America. Elles ont fait le trajet d'une petite ville située au nord de San Francisco pour que sa fille puisse participer à cette parade suivie par des millions de téléspectateurs à travers le pays.
Je suis ici pour ma fille parce que c'est son rêve. Il est devenu réalité être dans la parade de Thanksgiving. Elle est en classe de terminale. C'est donc sa dernière opportunité. Et nous y sommes là. Nous avons réussi.
L'objectif principal de la parade de Thanksgiving est d'apporter de la joie et de la féerie aux Américains.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebudia et de Michel Joseph, qui était également à la mise en onde. À la console, Patrick Dea. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.